Et oui, par ici les sorties, numéro spécial, édition spéciale de ce soir avec Éric Truffat. En effet, Éric Truffat était hier soir donc en concert au JAM. Évidemment, Divergence y était. Divergence s'est appliquée à faire ce qu'il fallait. Par conséquent, interview exclusive d'Éric Truffat tout à l'heure. Certes, l'événement était d'importance et il demeurera pour ceux qui étaient présents au concert vraiment une exception à graver dans leur mémoire. Et pour ceux qui n'étaient pas au concert, eh bien, ils vont le regretter quand on écoutera la musique d'Éric Truffat. Pour l'instant, on va retrouver notre compère de la semaine, Mr. James Moody. On l'avait quitté, Mr. Moody, en 1948, au mois d'octobre, où il était avec ses Bob Men et... Donc c'était la première séance pour le label Blue Note. Et bien là, il avait souhaité dédier un morceau à l'altiste du groupe, Ernie Henry, qu'il connaissait déjà depuis quelques mois et quelques années au sein du groupe de Dizzy Gillespie. Une solide amitié s'était nouée entre eux. Il va donc lui dédier ce thème au Henry. Sur les conseils de Charlie Parker pour son fameux concert du 29 septembre, eh bien, Dizzy est séduit par la musique cubaine. Il a décidé d'intégrer dans son big band deux percussionnistes, Lorenzo Salan et Chano Pozzo, que Charlie Parker a découvert en ce début d'année 47 lorsque celui-ci se produisait au sein du big band du joueur de maracas Machito. Chano Pozzo va donc demeurer avec Dizzy Gillespie jusqu'à la fin de 1948. Et pour son deuxième album, le 25 octobre 1948, eh bien, tout simplement, James Moody tient à profiter de la manne que s'offre à lui avec cette découverte de cette nouvelle musique. Il fera donc appel à Chano Pozzo Et comme un miracle n'arrive jamais seul, eh bien, Art Blakey, le grand Art Blakey, va se joindre au groupe pour cette séance d'enregistrement. Quatre titres seront gravés ce jour-là. Le premier, c'est Tropicana, un thème qui sera repris en 1949 par Gil Fuller, d'ailleurs. Un final très brutal, c'est le preneur de son qui a dû se planter dans les manettes, je ne sais pas pourquoi. Donc on était quand même, il faut le rappeler, en 1948, et la technique était ce qu'elle était à l'époque, et on faisait avec, par conséquent, peut-être que la cire n'a pas pris, je ne sais pas. Toujours est-il que ça se passe comme ça. Le deuxième thème enregistré ce soir-là, ce sera le célèbre thème Q-bas, donc Cuba. Effectivement, un thème que tous les Beauports reprendront, et notamment le pianiste Duke Jordan en 1957 avec son quintet, avec là aussi Mr. Art Blakey. Pour l'instant donc, James Moody, Cuba. Thank you. James Moody, Cuba. Et maintenant, un grand moment avec l'interview donc de Eric Truffat. Mais précédemment à cela, eh bien, Simon m'a rejoint. Simon, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, et il faut dire que tu étais tout comme moi présent au concert, un concert dont on ne se remet pas facilement.
J'ai eu beaucoup de mal à dormir après ce joli concert. C'est un concert qui a duré quand même quasiment 2 heures, voire même 2 heures et quart. Enfin, on a eu le droit à une bonne dizaine de morceaux, un bon melting pot de tous ses précédents albums. Enfin, une harmonie parfaite, des musiciens exceptionnels. On voit qu'ils se connaissent depuis vraiment pas mal de temps, ces
Coca-Cola. Oui, 30 ans.
30 ans,
effectivement, on sent d'abord qu'ils ont plaisir à jouer ensemble. Et puis, pour les gens qui étaient présents, comment oublier quand même, d'une part, à mon avis, les solos de basse de Marcello Giuliani.
Ah, c'était superbe, hein, sur sa 4 cordes, ou sur sa 5, que ce soit sur la 4 cordes ou la 5 cordes. Il devait y avoir quelques bassistes chevronnés dans la salle, parce qu'il y a eu une très très bonne écoute du public par rapport à ça. Au solo aussi du pianiste Benoît Corboz, qui jouait...
Attention, il faut dire Corbeau, parce que on dit Corboz,
pardon, le breton que je suis. que ça soit au Rhodes ou à l'Orgamon, je l'ai trouvé, c'était l'élément un peu free du quartet, le batteur à chaque fois, j'oublie son nom,
Marc Herbetta,
et Marcello Giuliani envoyait le son du quartet caractéristique de Truffaz, le son qu'on le connaît depuis Out of a Dream ou The Down. Et comme Benoît Corbeau, pousse encore plus loin l'expérimentation, ouvre des nouvelles pistes à chaque fois. Et Eric Truffat avec ses effets, ses petits coups de sampleur qui sont super bien maîtrisés, c'est tout simplement parfait en fait. Et en plus, le son du jam était là de moi la position où j'étais, c'était.
Il faut dire que c'était archi archi complet.
Ah oui.
Et
mais on était bien.
Ce qui était intéressant et surprenant, c'est que c'était toute génération confondue. Et j'ai ça, je trouvais ça très sympathique, parce que je pensais qu'il y aurait plutôt un public jeune. Et non, il y avait aussi des personnes de mon âge, dans un certain âge, qui n'ont pas hésité. Et vraiment, c'était très sympathique. Et puis, Eric Truffat, c'est Eric Truffat avec sa manière d'être sur scène, c'est-à-dire cool du début jusqu'à la fin. On a l'impression que rien ne peut l'atteindre, sûr de sa musique, sûr de ses prestations, sûr de ses musiciens. Et puis, moi, j'ai gardé aussi en mémoire un morceau, notamment, qui a été fait en duo, piano acoustique,
magnifique,
trompette, non amplifiée, non électrifiée. C'était presque de la teneur, on va dire, de Chet Baker, avec cette sonorité qui est propre donc à Eric Truffat. Et on aurait pu entendre My Funny Valentine, je crois. C'était vraiment de grands moments. On va quand même pas parler trop longtemps, parce qu'après les auditeurs vont dire ils n'y étaient pas.
Il repasse
le 17, c'est au mois d'avril, je crois. Il repasse le 17 avril au Festival du Jazz du Vigan. Alors bien sûr, il nous en parlera d'ailleurs dans l'interview. C'est un peu loin de chez nous, mais je pense que ça vaut la peine d'y aller. Alors, parce que ce sera là aussi un très très grand concert. Ce seront les mêmes musiciens. Alors hier, il y a eu en plus la prestation vocale de la première partie, qui était Anna Non, qui est une jeune chanteuse suisse qui va faire la tournée avec eux. Je ne sais pas si elle sera là ou si ce sera Sophie Unger qui sera au Vigan. On va donc écouter Mr. Eric Truffat. Truffat, bonjour.
Bonjour.
On va se dire tu, parce qu'on se connaît déjà un peu.
Oui.
Et par conséquent, retrouvailles avec Montpellier.
Oui.
Après donc bien des années, notamment 2 ans pour un concert au JAM. Mm-hmm. Et puis, il y a bien plus longtemps que cela pour ce premier album Blue Note, Out of the Dream.
Out of the Dream que j'ai enregistré en 1995 à Montpellier, 96.
C'est un bon souvenir.
Oui, un très chouette souvenir. Au studio de Guy Simon, et puis pour être, ça s'appelait le Studio Village. Et pour être prêt, on avait fait 2 concerts au JAM pour se chauffer.
Et donc ce soir, ce concert, c'est avec, on va dire, le nouveau quartet, entre parenthèses, oui. Puisque oui. C'est simplement Benoît Corbos qui est venu, donc, qui est passé du son directement au clavier.
Oui, oui, oui.
Et pourtant, on peut dire, parce que j'ai lu ça dans bien des critiques, que ça semble être des retrouvailles, et moi, sauf erreur de ma part, je me souviens d'un premier album où on avait vu le nom d'Éric Truffat, c'était pour un concert qui avait lieu à Montreux, avec le Cruzeiro do Sul. Et il y avait donc déjà Benoît Corbeau qui était là. Mais ça remonte aux années 87,
oui,
je crois, hein, oui, si je ne me trompe pas.
Hein. Oui, ça c'est vieux, c'était les années 87, oui. Et le lendemain, on était parti à New York, Benoît Corbeau et moi.
Mais j'ai remarqué d'ailleurs que, en dehors de ton quartet où tu es leader, il y a très peu de musiciens avec qui tu joues, soit en sideman, soit à côté d'eux. On peut dire que, peut-être à part Michel Benita, à ma connaissance. Et ça tient à quoi, ceci ? C'est un choix personnel ?
Non, mais... Moi, j'adore jouer avec d'autres personnes. Mais le fait, c'est que j'ai pas un nom anonyme.
Certes.
Donc, quand on m'engage, tout de suite, on fait de la pub... autour de mon nom, et a priori ça me gêne pas, mais en même temps ça me gêne parce que si on fait de la pub autour de mon nom pour dans une salle, je peux pas revenir avec ma musique après. Chaque endroit où je vais est un endroit potentiellement rayé pendant 2 ans. Donc s'il y a plein de groupes différents qui m'invitent, après quand je fais un projet à mon nom, je peux plus jouer.
D'accord, je comprends mieux.
Ça vient un petit peu de ça, et aussi de mon emploi du temps.
Oui,
j'ai fait des choses avec des Turcs, Istanbul Session, où on a pas mal joué en Europe. Puis autrement, en dehors du quartet, j'ai fait beaucoup de choses avec Murkoff, avec Calvin Sid.
Un peu avec Malcolm Braff aussi.
Avec Malcolm Braff et aussi Fionger, on a fait aussi.
Et puis un guitariste dont je n'arrive jamais à prendre le nom,
Gérard.
Manu Kodja, mais ça c'était effectivement. Mais un autre guitariste, je pense qu'il doit être suisse, non ?
Harald Erter.
C'est ça, voilà.
Avec qui on a enregistré avec Brecker. Avec Brecker, avec Joe Lovano, avec Dewey Redman.
Oui, c'est quand même
On a engagé des saxophonistes.
Des références et des grandes pointures. Et donc ce soir, on va avoir droit à un concert qui sera plutôt dans l'esprit de In Between ou plutôt dans l'esprit de The Walk, The John Turtle, ou les deux.
Non, on peut dire que qu'on va de plutôt entre les disques Bending Your Corners, The Dawn et In Between sont réunis, ces trois disques-là surtout. Thank you.
In Between, titre éponyme de l'album d'Eric Truffaut, paru donc chez Blue Note. Évidemment, l'album s'appelle bien sûr In Between. On va continuer cette interview donc de Eric Truffaut, et c'est comme si vous étiez au concert, parce que c'est vraiment la même sonorité, à croire que l'ingénieur du son est celui qui a fait la prise de son pour Blue Note, j'en sais rien.
On y a eu le droit hier soir.
On a eu le droit hier soir, et c'était vraiment un monde d'exception. La différence entre le CD et le concert, eh bien, c'est que dans le CD, évidemment, les morceaux sont plus courts, tandis que dans le concert, eh bien, les musiciens se sont lâchés et c'était fabuleux. Vous avez raté quelque chose si vous n'y étiez pas. Peut-être n'avez-vous pas pu y aller.
Oh là là.
Ah, ça bouscule, c'est l'émotion. Parce qu'il y avait un monde fou. On était les uns contre les autres, c'est le cas de le dire.
C'était complet d'ailleurs.
C'était archi complet.
Ah, c'était complet.
Et moi, j'en ai parlé avec M. Pfeffer. Je craignais que il y a la commission de sécurité qui se pointe et qui dise qu'il fallait faire évacuer une partie de la salle, quoi. Enfin, ça, c'est anecdotique. On retrouve donc Maître Eric Truffaut.
Parce que, effectivement... Le jeune Turtle, c'était plutôt un disque rock. Hein.
C'était plutôt rock, oui, effectivement. C'est aussi...
C'est un peu un son qu'on utilise à des moments, mais qui c'est pas le son de base, quoi.
Oui, parce que là, dans ce nouvel album, dans In Between, qui vient de paraître chez Blue Note,
Il y a beaucoup d'orgue,
et c'est effectivement, et c'est toi qui le dis, c'est un éloge de la lenteur et presque du silence.
Je dis souvent ça. Hein. Mais il y a beaucoup de morceaux atmosphériques, et puis au niveau de la trompette, il y a pas mal de thèmes assez lents.
Et justement, moi, ma question...
Avec pas mal d'espace.
Ma question serait, comment se crée cette ambiance, parce qu'effectivement, on a l'impression de recevoir des images quand on écoute ta musique. Et je pense que toi, tu dois peut-être construire la ligne mélodique. Ouais, et les
ça
autres,
dépend. Ça dépend. Il y a plusieurs cas de figure. Pour ce disque-là, effectivement, pour les morceaux de Secret of the Dead Sea, Mécanique Cosmétique, qui ont fait des maquettes qu'a amené Marcia Giuliani, j'ai travaillé la ligne mélodique, surtout.
Thank you.
Mécanique cosmétique, extrait de l'album In Between, et on disait, Simon, que c'est vraiment peut-être dans l'album le morceau qui est le plus caractéristique
du son du quartet,
d'Eric Truffaut, ouais. et du quartet, effectivement.
Comparé à d'autres morceaux de In Between, comme Lost in Bogota, dont on parlait tout de suite, ou Malbec après, c'est ça, ce Mécanique cosmétique rattache avec toute la... le son de The Down, et comme Eric Truffaut l'expliquait dans l'interview, le son de Bending New Corner, cette rythmique syncopée à la basse, la rythmique légère de la batterie, drum and bass, c'est assez unique.
Et puis il faut dire que les arrangements ou les apports de sonorité de l'orgue sont fabuleux. Michel Corbeau, non, c'est son père, Michel Corbeau.
Benoît
Corbeau. Et vraiment... presque la touche. Et c'est vrai que pourtant, Müller était quand même un grand, lui aussi. Il lui rend d'ailleurs hommage, parce que j'ai fait l'interview à la fois d'Eric Truffaut, mais aussi des musiciens, parce que, comme il le dit lui-même, c'est vraiment un collectif de copains et de musiciens. Et les musiciens, d'ailleurs, m'ont dit qu'ils se comparaient, eux, carrément à un groupe comme Pink Floyd.
Ah,
c'est-à-dire qu'ils disent que ils répètent tous ensemble, qu'ils recréent tous ensemble, et que par conséquent il y a Eric Truffaut et le leader bien sûr, mais que malgré tout, eh bien, ils sont constamment ensemble avec des idées personnelles. On écoutera ça peut-être demain ou dans une autre interview, une autre émission. Pour l'instant, on retrouve Monsieur Eric Truffaut.
seul ou avec lui. Il y a des morceaux où j'ai amené la ligne mélodique et l'harmonie, puis on a retravaillé la rythmique et puis la métrique avec tout le groupe. Et il y a des morceaux qu'on a inventés ensemble.
Donc il y a des morceaux, disons...
Par exemple, mais des morceaux comme In Between ou Fujin,
oui.
C'est des morceaux longuement préparés à la maison, à la France.
J'imagine, parce que moi je trouve que, c'est, enfin à mon sens, tout au moins là je suis très personnel, c'est peut-être les deux morceaux les plus... que je préfère dans cet album, justement parce qu'ils sont d'une lenteur, d'une sérénité. Lorsqu'on se voit, parce que tu es en face de moi, tu as cet aspect cool qui se retrouve effectivement dans ta musique, on va dire.
C'est une question ou une affirmation ?
C'est une... Fujin, un morceau très lent, peut-être un des plus, on va dire, beaux morceaux. Ils sont tous très beaux, mais celui-ci est vraiment dans l'esprit donc d'Eric Truffaut, parce que pour l'avoir côtoyé et interviewé, il est d'un calme surprenant. Tout semble se dérouler normalement, et parfois, vous le verrez dans l'interview, il a des excès, des accents, et puis c'est Eric Truffaut, donc c'est vraiment un grand monsieur, et je dis bien autant un grand monsieur du jazz qu'un grand monsieur au sens plein du mot. On va le retrouver pour la poursuite de l'interview d'ailleurs.
La musique, c'est un peu le miroir de l'âme, donc de ce qu'on est.
Oui, mais justement, je pense qu'il doit être très difficile de retrouver cette expression de ce que tu ressens au travers de la musique qui est faite par un collectif quand même. Ou bien, est-ce
non,
que sur les...
Non, je crois pas. Non, je crois pas. C'est qu'on a une très bonne osmose et une très bonne influence et on trouve assez facilement... Non, ce n'est pas difficile.
Il faut dire que tu es très fidèle à la fois.
Pas difficile, il faut qu'on travaille à ça. Quoi.
Oui.
Bien sûr. C'est pas facile non plus, mais on sait un petit peu quels sont On sait un petit peu ce qu'on recherche quand même.
Il faut dire, je disais que tu es fidèle particulièrement avec tes musiciens, parce que ça fait maintenant. Je ne sais combien d'années qu'ils sont présents à tes côtés.
Oui. Ben, Herbetta Giuliani, c'est 20 ans.
20 ans. Et fidèle aussi à ton label, Blue Note.
Oui.
Et si on parle un peu de...
Je dois dire qu'ils sont fidèles à moi aussi.
Oh ben, je pense que tu es une des locomotives du label, quand même.
Oui, locomotive, on ne va pas dire ça, mais je suis une des personnes, des dinosaures du label. Je suis le Aznavour du Blue Note.
Et justement, parce que tu le sens, en ce moment, c'est le Midem et tout le monde...
Je suis content, Aznavour a écouté notre album.
Oui.
Et il l'a beaucoup apprécié. Ça, j'étais très content. Ça.
Mais justement, tu es toujours aussi, peut-être pas sensible à la voix d'Aznavour, on ne va pas dire ça.
Et
mais tu es sensible aux voix également, parce que dans bien des albums, tu as toujours une partie vocale qui vient s'intégrer.
Oui, et puis
s'intégrer.
Ça me semble, et je ne me trompe pas d'ailleurs, ça me semble un pont entre notre musique et le public. Quoi. C'est ce qui la rend plus populaire. D'ailleurs, la chanson d'Et Migos, si on n'avait pas fait cette chanson-là, on ne passerait pas dans les radios. Ça change beaucoup de choses. Quoi. Maintenant, franchement, il y a peu de radios qui font pas des musiques instrumentales.
Mais justement, ce soir, donc,
je déplore, hein.
Sophie Unger ne sera pas là, puisque c'est en quartet. Et...
Oui, mais il y a une jeune fille qui fait la première partie, qui s'appelle Anna Aron, qui, elle, va chanter avec nous.
Et justement, par rapport au précédent album Blue Note, qui était en fait un triptyque qui s'appelait Paris, Benares, Mexico, là aussi, c'était des ambiances dues à des lieux particuliers, avec pour Benares, bien sûr, des musiques indiennes. Et puis aussi, pour Paris, il y avait donc, là aussi, un vocaliste à part entière. Et donc, cette fois, c'est un peu, on va dire, une modification complète de cette structure, ou bien c'est une continuité.
Il n'y a rien à voir. Hein. Benares, c'est un album. Benares, c'est j'enregistre à Calcutta. Mexico, c'est à Barcelone. Paris, c'est avec Sally Johnson. Mais moi, je fais des projets avec mon quartet. On fait des projets ensemble. Et puis, après, au bout de 2 ans, je décide souvent, on arrête. Et là, je fais un autre projet pour un peu redonner de la dynamique et aérer le quartet.
Et là, donc aujourd'hui, c'est le début d'une grande tournée en France qui va durer pratiquement
jusqu'à... Oui, pas que la France.
Non, mais juste au moins pour l'instant, au moins jusqu'au mois d'avril. Quoi. Parce que demain, c'est Lyon.
Oui, mais c'est des tournées qui sont mélangées avec l'Europe. Donc, c'est des tournées qui durent 1 an et demi, 2 ans. Avec des pauses, bien sûr, mais... C'est comme ça que ça se passe. Et heureusement d'ailleurs, parce que là, je vis avec les concerts, donc s'il n'y en a plus.
Oui, c'est vrai que la crise du disque étant ce qu'elle est, on va dire. Et justement, quelle est l'opinion d'Éric Truffaut par rapport à la crise du
on va dire, de la vente des CD.
C'est pas tellement la crise du disque, c'est une crise générale où on copie tout finalement. Bon, le cinéma ça marche bien, mais on a quand même tendance à tout copier. C'est un procédé finalement qui a commencé à l'ère industrielle où on commence à remplacer l'homme par les machines. Donc voilà, on remplace les disques par des supports. On digitalise tout. Bientôt, il n'y aura plus personne pour distribuer l'étiquette train. On remplace l'homme par la machine. Et le résultat, finalement, c'est qu'il y a plein de gens qui ont peu de boulot, puis il y a peu de gens qui s'enrichissent.
Tu as parfaitement raison.
Fond du truc, c'est ça.
C'est vrai qu'on est de plus en plus, on a de plus en plus tendance à supprimer l'homme pour le remplacer par des machines. Et au cinéma, on commence à voir des films pratiquement virtuels, on va dire.
Excuse-moi.
Oui.
Laurent, tu pourras recommander un kilo de mandarine que je n'ai pas fini.
Je sais pas, il y en a encore là derrière, mais je ne sais pas s'il y en aura plus.
Hein. Oui, mais pour en trouver ailleurs.
Bien sûr.
Ce sont les aléas du direct. Merci de cette intervention. Et oui, on faisait un peu non pas de philosophie, non, on va pas refaire le monde non plus, mais c'est vrai qu'on peut regretter cela, et il faut espérer quand même que la musique, et puisqu'au idem, on parle, tu le sais, beaucoup aujourd'hui de synchronisation, les maisons de disques sont en train de se projeter là-dedans au détriment des éditeurs. Tu as une position par rapport à ça ?
Écoutez, ma position, nous musiciens, notre position, c'est qu'il faut qu'on arrive à s'en sortir avec la musique et puis qu'on puisse enregistrer d'autres disques. Quoi. Le problème un petit peu des maisons de disques, c'est qu'il y a 8 personnes pour faire le travail d'un qui sont surpayées et ils ne veulent pas baisser leur train de vie. Donc ils cherchent à gagner du fric ailleurs en prenant plus aux musiciens. Et finalement, moi ça ne m'intéresse pas d'être richissime. Ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir faire de la musique et puis de vivre convenablement. Mais je pense que les maisons de disques ont vendu les disques trop chers. Après les vinyles, ils ont doublé le prix du CD en disant que c'était plus sophistiqué, ça coûtait 2 fois moins cher à les fabriquer. Donc, ils auraient vendu les disques moins chers, puis ils n'auraient pas sorti autant de merde. Je pense que le marché du disque serait aussi maintenu. Puis après, les maisons de disques, ils ont inventé les copieurs de disques. Donc, c'est toujours ce principe de l'homme qui se détruit par lui-même. C'est presque un fonctionnement romain, on va dire. Les Romains, ils sont auto-détruits. Eh ben, pour le disque et pour l'homme, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on fait là ? On voit bien ce qui se passe. On invente des systèmes financiers et bancaires qui s'autodétruisent entre eux, qui enrichissent quelques petits rois et qui affament la planète. Ça marche pas ?
Et non, ça marche pas. Et pourtant, le monde continue à essayer de vivre et certains de survivre, on va dire, parce que là, on rentre dans un domaine plus politique, on va dire.
Oui, mais bon, ma musique, elle est... Enfin, je suis un être humain, donc j'ai une position.
Non, je sais.
Thank you.
Bogota, donc extrait de l'album de Eric Truffaut portant pour titre In Between, paru chez Blue Note. Je rappelle que l'émission est en majeure partie consacrée à l'interview qu'on a fait hier, donc de Monsieur Truffaut, et c'est bien sûr une exclusivité Divergence FM. Simon, ça aussi, c'est un beau morceau.
Je crois que c'est un des morceaux les plus rythmés de l'album, qui est assez bizarre, qui est super accessible, mais qui correspond pas trop au style de Truffaut d'origine, on va dire. Mais le thème de la trompette est très décousu, très long, et là on reconnaît la patte Truffaut. Et c'est là que c'est intéressant d'avoir des musiques, des mélanges de sonorités, parce que là on a plus une rythmique funk, quasi rock, enfin des lignes très syncopées. Et c'est un des morceaux les plus intéressants de l'album.
C'est un album, je pense, qu'il faudra écouter et réécouter, parce que tous les morceaux sont... Dans tous les morceaux, il y a des choses à découvrir. Et bon, nous, on était au concert, et je pense que là, on est quand même subjugué, enfin moi, je l'étais, de voir ce quartet qui, les morceaux s'enchaînent les uns après les autres.
Et hier soir, on a eu une très, très belle version de ce morceau-là, qui était plus rapide.
Plus rapide.
Et encore plus vivante, donc je vous laisse imaginer, chers auditeurs.
C'est-à-dire que Corbeau s'est quand même lâché là-dessus.
Là, on a eu le droit à un solo au Rhodes qui était assez impressionnant. Ouais.
Bah oui, parce que... je dis ça n'a rien à voir, évidemment. Il nous fait ça un peu à la Keith Jarrett, tu sais, qui se lève sans arrêt.
Il
saute de joie sur son clavier. Alors, il avait évidemment un Rhodes et un Harmon dans chaque main. Donc, ça aussi, il faut dire que c'est quand même un grand monsieur pour arriver à faire ça. Une main gauche qui ne voit rien du tout. Et malgré ce, il arrive à sortir des sons fabuleux.
Et l'avantage d'une salle comme le Jam, le public était vraiment à 1m50 de lui. Et on sentait vraiment une communication entre les musiciens et le public.
Alors... Mais ça, on l'écoutera dans l'interview que j'ai fait des musiciens. Et je leur ai demandé justement s'ils préféraient jouer en petits clubs ou dans des grands festivals. Et ils me disaient que sur des grands festivals, d'abord, ils n'occupaient pas toute la scène parce que c'est pas la peine. Ils me disaient, il y a 2000 ou 2500 personnes, mais nous, on s'en moque complètement. On se resserre les uns des autres de manière à être vraiment au plus près entre nous, pour avoir le feeling le plus adapté possible. Et il me dit que, eux, jouer le nez sur les chaussettes du public, c'est ce qu'il y a de mieux.
C'est ce que je pense aussi.
Enfin voilà, donc on va terminer cette interview d'Eric Truffaut, parce que tout a une fin, et même les plus belles choses. Et par conséquent, on termine avec un extrait assez intéressant d'ailleurs, de l'interview d'Eric Truffaut.
Non, je sais qu'en général, elle est assez tranchée, ta position d'ailleurs.
C'est normal.
Parce que j'ai souvenir d'une interview qu'on avait fait il y a quelques années à Junas, où je peux le dire aujourd'hui, puisqu'il est décédé, on a tous les droits, eh bien tu t'en étais pris à Monsieur Fraîche. Mais c'est pas une banalité, simplement tu lui reprochais d'avoir modifié tout le nom des rues de Montpellier.
Bon, je ne les connaissais pas avant, donc qui se transforme finalement... Montpellier en une Grèce antique, ça c'est sympathique. Hein, je sais pas. Finalement, je trouve qu'avec l'arrivée de Sarkozy, ça relativise tout.
Bon. Moi, il me reste quand même, parce que je sais que le temps presse et que la balance, il faut la faire, donc il me reste quand même à te remercier de m'avoir accordé autant de temps.
Mais c'est avec plaisir.
Et puis, en espérant... qu'on se reverra bientôt à Montpellier, ou peut-être ailleurs, sait-on jamais, parce que je crois me souvenir qu'au mois de, je crois que c'est au mois de mars ou au mois d'avril, tu es programmé au Festival du Vigan.
Oui, on m'a dit que c'était incroyable.
Ah bon ?
Enfin, on m'a dit que c'était un coin vraiment excentré.
Oui, mais ça, c'est c'est un peu comme Paris et la province, tu vois.
Pour toi, c'est pas excentré.
Non, mais...
On m'a dit que c'était très chouette.
C'est très chouette, c'est au début des Cévennes, tu vois, vraiment, c'est magnifique, tu vas t'y plaire. Ouais. Tu vois, c'est pas le même contexte que Junas, on te rappelle, on est dans les pierres, et c'est vraiment quelque chose de particulier. Mais moi, je trouve louable que, des villages, mais des petites communes comme ça, fassent l'effort de programmer des gens
comme toi. Bien sûr.
Et je crois qu'il est aussi louable de voir que des gens comme toi ne rechignent pas à aller se produire des communes qui ne sont pas forcément des grandes métropoles.
Mais il n'y a pas de petit public. Hein.
Non. Non, mais enfin, justement, comme tu disais, tu es quand même, on va le dire, une star mondiale quand même. Et c'est vrai que peut-être que pour certains, je ne citerai pas de nom parce que je vais être gentil avec les musiciens aussi, je pense que tous n'iraient pas se produire au Vigan.
Ah, d'accord.
Voilà ce que je voulais dire.
Moi, j'ai aucune réticence avec les endroits où se produire, si c'est pas des lieux qui sont contre ma philosophie. Quoi.
Oui.
J'irai pas me produire dans une caserne, forcément. J'irai pas. Il y a des lieux où je vais pas, quoi. J'étais invité chez Sarkozy la semaine passée, j'y suis pas allé.
Non, je pense que tu préfères aller en Sibérie pour le fameux festival. Oui, voilà, tu y vas toujours ?
Non, ça n'existe plus.
Ça n'existe plus. Oui.
Mais il y a des endroits où je vais, des endroits où je ne vais pas. Mais autrement, il n'y a pas de petites gens et de petit public. Voilà, c'est ça que je
pense. Ben, c'est très bien. Je crois que c'est là-dessus qu'on va terminer cette interview.
Eh bien voilà, interview un peu brutale, parce qu'après, on nous faisait de grands signes, parce qu'il fallait que Eric Truffaille s'occuper de la balance. Par conséquent, il nous a quittés précipitamment. C'était vraiment, pour ma part, un grand moment, et j'étais très fier de faire cette interview d'Eric Truffaille. On va se quitter avec un dernier titre où va intervenir la chanteuse Sophie Unger. C'est aussi, il en a parlé, le thème « Let me go ». Simon, on va donc se quitter avec ça. Merci d'être venu dans le studio. Et puis, on retournera à d'autres concerts. Oui. Tu verras, aussi beau.
En
parlant de ça, oui, tiens, on va en parler très rapidement. Simplement, sachez qu'au mois de mars, il y aura vraiment le gratin, du gratin sur le gratin. Ce sera toujours au Jam. Il y aura donc Hurricane, pianiste. Plus tard, il y aura le Paolo Fresu Quartet. Et plus tard, le batteur Jeff Ten Watts. Quand même préparé pour le mois de mars. Faites quelques économies parce que ça vaudra le coup d'y aller. Pour l'instant, je vous dis donc au revoir. On se retrouve demain pour une nouvelle émission de Par ici les sorties. Et puis peut-être que demain, on écoutera la deuxième partie de l'interview, celle que j'ai faite avec donc les musiciens donc de Eric Truffaut. Pour l'instant, Let Me Go avec Sophie Unger et Eric Truffaut. My freedom, this is my voice, my piece of Eden, my blind-eyed choice. These are my movements, these are my arms, this is my trumpet, these are my drums, drums. Let me go.